I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do.
Hier soir, la mère de Vincent au téléphone. C'est à quel sujet ? Envie de lui répondre. C'est au sujet de sa bite, madame. J'aimerais la sucer dans les meilleurs délais.
Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes bien sur l'émission Le Théâtre de la
Gamelle.
Votre émission de théâtre
radiophonique en direct.
Présentée par la compagnie
Les Montures du Temps.
Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec les membres de la compagnie Hérodium dans le studio.
De Radio Canu.
De Radio Canu, la plus rebelle des radios. Sarah Seignobosque.
Oui, alors moi je suis la directrice artistique de la compagnie Hérodium, qui est une compagnie qui est basée en Charente et en Rhône-Alpes. Voilà, et on a pour vocation de monter pour le théâtre des textes littéraires.
Oui, bonjour Sarah.
Bonjour.
Avec nous aussi, Alix Fournier-Pitaluga.
Bonjour.
Bonjour.
Donc moi je suis comédienne et metteur en scène et je travaille donc avec Sarah à la mise en scène du spectacle.
Et également Vincent Dédienne.
Dédienne,
pardon.
Monsieur Fico. Moi je m'appelle Vincent Dédienne, j'ai 25 ans, je mange de tout, je suis célibataire et j'ai fait allemand en première langue.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors vous êtes ici pour parler et lire autour de l'auteur Hervé Guibert. Voilà. Dans le cadre d'un spectacle que vous allez créer très prochainement, que vous êtes en train de répéter, qui s'appelle « Mais tous les ciels sont beaux ».
Voilà, alors « Mais tous les ciels sont beaux », c'est une adaptation de texte de Hervé Guibert, et nous sommes partis de son journal d'hospitalisation, qu'il a tenu peu de temps avant sa mort, pendant 3 semaines, lorsqu'il était hospitalisé pour traiter un problème à l'œil.
Très bien. On va d'abord commencer peut-être par parler un peu de la compagnie Hérodium. Dites-moi tout.
Alors, moi je travaille surtout sur des textes qui sont littéraires, que j'ai décidé d'adapter pour le théâtre. Mm-hmm. Ce sera ma 3e mise en scène, puisque j'avais déjà monté Eros Machine,
oui,
à partir de textes de Jean-Michel Rabeu. Ensuite, j'avais travaillé avec Grégoire Blanchon, qui est une compagnie, qui a une compagnie à Lyon.
Le songe d'une planche à vif.
Voilà. Nous avions travaillé à partir d'entretiens pour écrire un spectacle sur l'imaginaire. Et donc, j'ai réuni des personnes qui étaient toutes folles d'un auteur qui s'appelle Hervé Guibert. Et on a décidé de travailler à partir de ses textes pour le faire découvrir, parce qu'il est peu connu de nos générations.
Et donc, ce spectacle va être le premier de cette compagnie Hérodium.
Exactement.
Alors, pourquoi ce nom Hérodium ?
Alors, Hérodium, c'est un nom de fleur.
Oui.
Voilà, et c'est un nom que j'aimais bien. Ça me renvoyait aussi à les roses. Tout simplement.
Très bien.
Il n'y avait pas une histoire de Héron ?
Oui.
Tu n'avais pas dit ça ?
Alors, Héros, ça veut dire aussi Héron, et c'est le symbole du rêve et de l'imaginaire.
D'accord. Héron,
Héron peut.
Comme l'animal.
D'accord, comme l'animal. D'accord, comme l'animal. Donc, je précise que c'est Sarah Seignobosque là qui
exactement.
Vous parlait. Comment ça se passe? Tu es la directrice artistique de la compagnie? Vous êtes plusieurs?
Alors, il y a.
À qui est cette compagnie?
Alors, moi, je gère la compagnie. Je suis la directrice artistique. Après, il y a tout un petit monde autour.
D'accord.
Il y a un technicien son et lumière qui s'appelle Monotonal. C'est son pseudo.
D'accord.
Il y a une scénographe qui s'appelle Caroline Ronceret. Qui a fait les Beaux-Arts de Lyon. Nous avons Vincent, qui est en notre compagnie.
De Dienne.
Exactement.
Bravo.
Alix F. Pitaluga.
Oui.
Judith Rutkowski, qui est actuellement au Conservatoire de Lyon. Et Shawky Derbel, qui est aussi un comédien qui vit à Lyon.
Très bien. Et toi, tu viens du Conservatoire de Lyon aussi.
Exactement. Moi, j'ai fait la formation au Conservatoire de Lyon. Et Vincent et Alix, on s'est rencontrés à la Seyne-sur-Saône.
Ah, vous avez tous fait la Seyne-sur-Saône ?
Exactement.
Ouais.
D'accord.
J'y suis passé.
T'es pas allé à Saint-Étienne ensuite ?
Si, voilà, c'est ça. Moi, je suis passé un an par la Seyne-sur-Saône. Et après, j'ai fait la Comédie de Saint-Étienne, oui, pendant 3 ans. Et je suis sorti là, il y a 3 ans.
D'accord.
Voilà.
Et toi, Alix ?
Donc moi, j'ai fait 3 ans de formation à la Seyne-sur-Saône. Après, je suis partie à Paris. J'ai écrit et mis en scène 2 textes avec Vincent, entre autres.
Moi, je ne les ai pas écrits.
Non,
tu les as écrits toute seule.
Tu les as joués.
Mais je les ai joués.
Ouais. Et j'ai travaillé aussi en assistanat avec Jean-Claude Berruti.
Très bien.
Voilà. Et le titre du spectacle, le sujet du spectacle, est parti d'une envie commune autour d'un auteur. Et Vincent, tu peux peut-être nous parler un peu de l'auteur ?
Voilà. Oui, racontons Hervé Guibert.
Racontons brièvement Hervé Guibert. Alors, Hervé Guibert. Né en 1955, mort en 1991, à la fin de l'année 91, des suites d'une tentative de suicide. Il meurt à 36 ans après avoir écrit, enfin, il laisse derrière lui une somme colossale d'écrits. Il a été journaliste, critique photo au Monde. Il a été co-scénariste avec Patrice Chéreau d'un film qui s'appelle L'homme blessé.
Magnifique.
Tu l'as vu?
Ouais. Ah oui.
On peut se tutoyer ou pas?
Bien
non,
sûr.
Vaut mieux
bah
pas.
Oui.
Si, d'accord. voilà, il est photographe aussi. Il a fait énormément de photos. Et puis il a écrit des romans, une pièce de théâtre, un roman photo qui s'appelle Suzanne et Louise, qui est magnifique. Et puis il a tenu un journal intime pendant des années qui a été publié après sa mort, qui s'appelle Le Mausolée des Amants. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur lui?
C'est quoi la pièce de théâtre?
Sa pièce de théâtre, c'est Mon valet et moi. C'est ça?
Ah oui.
Non. C'est une nouvelle.
Oui, c'est une nouvelle ça.
Comment elle s'appelle sa pièce de théâtre? Vol mon dragon.
Voilà.
Vol mon dragon. Et je sais même pas si elle a été jouée. Elle
non,
a pas été
je
montée.
Crois
hein.
Jamais. Elle
jamais.
Est presque immontable.
Ouais.
D'accord.
Et oui, en fait, Hervé Guibert, les gens de la génération, la génération de nos parents ou de nos grands frères ou grandes sœurs le connaissent parce qu'il a été très médiatisé vers la fin de sa vie quand il a écrit sur le virus du SIDA dont il était atteint.
Ah oui, là, j'étais étonné que tu n'en parles pas.
Et bah oui, je faisais un peu de suspense. oui, parce qu'en fait, ça a été un des premiers à écrire sur ce virus. Il a fait une trilogie qu'on appelle la trilogie du SIDA, qui comprend À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Le protocole compassionnel et L'homme au chapeau rouge. Et ça a été des succès de librairie phénoménaux de son vivant. Ouais. Sur la fin, voilà. Donc il est passé chez Bernard Pivot, apostrophe, chez Pauvre d'Arvor. Donc enfin, il est d'un coup devenu très 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 connu pour ça. Mais il y a toute une littérature avant le sida qui, moi, me bouleverse encore plus, qui me plaît davantage.
Ah oui, il y a un livre avec des aveugles aussi.
Des aveugles, exactement.
Des aveugles.
Et Le Paradis, que nous, on a choisi d'inclure un peu dans le spectacle, qui est un road trip qu'il tient. Et c'est une histoire d'amour très physique entre un homme et une femme. Un roman très exotique.
Et donc voilà, c'est quand même, faut le dire, quand même, il était malade, il est tombé malade, et il a écrit à partir de son expérience beaucoup.
Oui, le virus a complètement contaminé son écriture.
Voilà.
Et de toute façon, il avait toujours fait depuis le début de sa vie une matière à fiction, à roman, à journal. Mais là, le SIDA, oui, a vraiment modifié son écriture, son rapport à l'écriture et au monde, évidemment, et aux autres. Et on le connaît beaucoup pour ça. En fait, je crois que on a le droit de raconter des anecdotes aussi à la radio, c'est sympa ça. j'étais à Gare de Lyon l'autre jour, enfin à Gare de Lyon, à Paris, Et je prenais le train pour venir à Lyon, et puis je révisais mon texte, et il y avait une dame à côté, plutôt âgée, qui avait quoi, enfin 70 ans, et qui m'adresse la parole, qui me dit « Excusez-moi, vous qu'est-ce que vous faites? Vous êtes comédien? Vous avez l'air de parler seul, soit vous êtes fou, soit vous êtes comédien, dites-moi. » Je dis « Oui, je suis comédien, je répète je révise mon texte d'Hervé Guibert, machin. » Et elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes devant sa tasse de thé, en disant « Oh là là, Hervé Guibert, si vous savez, c'est un des plus grands regrets de ma vie. Quand il était à la télévision, quand j'ai appris qu'il était malade, j'ai toujours eu envie de lui écrire pour lui dire « Courage, battez-vous, je vous aime, vous êtes beau. » Et je ne l'ai jamais fait, c'est un des plus grands regrets de ma vie. » Donc je pense qu'il a marqué vraiment comme ça toute une génération de gens qui étaient devant leur poste de télévision ou devant le... Enfin, qui le connaissaient, quoi, qui le lisaient. Et nous, on le connaît peu, nous, c'est notre génération.
Oui. C'est vrai.
Il a peu... ouais, enfin, voilà. On l'oublie un peu, peut-être, je sais pas.
Et a priori, si, pour en avoir parlé, moi, avec des gens qui ont vécu aussi cette période-là où il était très connu, même quand on l'aborde, nous, juste par les écrits, moi, je l'ai connu que par les livres et pas du tout par son image publique, a priori, il véhiculait une énergie un peu âpre, un peu radicale, comme ça, qui est pas forcément visible que dans les livres. On a tendance à projeter des choses... la compassion sur lui en disant et je crois qu'il était quand même dans un rapport plus
frontal,
plus âpre aux choses, à la vie,
je pense, Michel Raskin me disait l'autre jour qu'il était odieux, voilà, en fait, absolument odieux. Il l'avait rencontré, Michel, pour un projet qui ne s'est pas fait finalement. Il disait il était très extrêmement désagréable et très beau à la fois, et je crois que c'était un espèce d'enfant, de vieil enfant à qui on pardonnait tout, je crois. Agathe Gaillard, qui expose ses photos à Paris, me disait, elle, que on disait qu'il était beau parce que quand il entrait dans une pièce, tout se figeait, quoi. C'est-à-dire vraiment, on ne pouvait pas ne pas le regarder. Mais en fait, elle disait, on disait qu'il était beau parce qu'on ne savait pas quoi dire d'autre. Il n'y avait pas d'adjectif qui existait pour décrire cette chose, cette attraction qu'il avait, tout ça. On disait qu'il était beau parce qu'on n'avait pas d'autres mots. Mais c'était pas exactement ça non plus. C'était plus quelque chose de plus âpre, à mon avis, j'en sais rien, moi je l'ai pas.
Et son âpreté, on la retrouve vraiment dans son écriture. Il n'y a jamais, jamais de désespoir dans cette écriture-là. Et il ne se complaint jamais.
Oui.
Il se complaît jamais, pardon, dans une sorte de mélancolie. Il est toujours très combatif.
Oui. Et aussi, parce que ça m'inspire quand tu dis c'est quelqu'un qui ont pardonné tout. Il y a beaucoup de livres, moi je trouve, qui commencent hyper mis en forme et tout.
Oui.
Et qui finissent complètement comme juste des notes.
Oui.
Je sais que moi, des fois, je savais pas trop quoi en penser. En même temps, je trouvais ça audacieux. Et en même temps, je savais pas si c'était de la fainéantie, si c'était un vrai acte artistique, si c'était. Enfin bon.
Je sais pas, c'est curieux.
Et en tout cas, moi, l'image que j'en retiens, c'est cet auteur-là qui sert de sa vie pour faire de la littérature, quoi. Je sais pas si c'est comme ça.
Ah oui, c'est ça, c'est complètement ça.
Bon. On va peut-être recentrer rapidement sur la présentation du spectacle, du coup, que vous êtes en train de répéter.
Oui, alors nous répétons actuellement, et le spectacle va se jouer au Théâtre du Verseau à Saint-Étienne.
Mais tous les ciels sont beaux.
Exactement, Mais tous les ciels sont beaux va se jouer le 9, 10 et 11 mai à Saint-Étienne au Théâtre du Verseau.
D'accord. Alors, donc c'est principalement des textes du livre Cytomégalovirus.
Exactement.
Qui est le journal d'hospitalisation.
Ouais, qui est aussi le nom de la maladie dont il est atteint.
D'accord.
Qui est un virus qui lui attaque l'œil, qui lui fait perdre progressivement la vue.
D'accord.
Voilà. C'est complètement fou, hein, comme nom de maladie. Cytomégalovirus, c'est incroyable.
Ouais.
Je pensais que c'était un néologisme, moi, mais non, ça existe. Voilà.
Et
ça existe, vous pouvez vérifier.
Vous avez inséré aussi des textes du... Le paradis ?
Des textes du paradis, du protocole compassionnel et de Désaveugles.
Désaveugles, d'accord. Comment vous résumez le spectacle ? C'est quoi votre pitch ?
Waouh.
Alors, un auteur est hospitalisé pendant 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, il va tenir un journal. Et il y a un médicament qu'on lui donne qui provoque chez lui des rêves anormaux.
D'accord.
Et donc, nous, on est partis de ces rêves anormaux pour imaginer certaines échappées dans le spectacle.
Très bien. Quelque chose à rajouter ?
C'est un spectacle sur... En fait, comme c'est un journal, et que, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des notes, nous, on a essayé d'inventer ce qui se passait entre les notes aussi. Voilà. Et on est parti de l'idée qu'on voyait tout à travers ses yeux, donc qu'on pouvait tout inventer. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de recréer une espèce de routine ou de quotidien de l'hôpital. mais de le décaler, ce quotidien, de le transformer parce qu'il intervenait dessus en tant qu'écrivain.
Donc on a essayé de regarder l'hôpital à travers les yeux de cet auteur-là.
D'accord. Et du coup, au niveau dispositif, décor, vous êtes comment? Vous êtes, non, c'est la surprise.
Ça, c'est la surprise.
Je ne sais pas s'il y a représentation ou pas de l'hôpital. Ou...
Il y a représentation de l'hôpital, ouais, mais un peu décalé.
D'accord. Et je voulais préciser aussi que c'est un spectacle donc mis en scène par toi, Sarah.
Oui.
Et par toi, Alix.
Oui.
Dans lequel jouent Alix et Vincent ici présents, mais aussi donc Judith Rutkowski et Shawki Derbel.
Exactement.
Donc toi, Sarah, tu te mets en regard extérieur, tu ne joues pas dedans. Et voilà, donc on va faire une petite pause musicale et juste après, nous allons vous proposer une lecture
de l'image fantôme.
Voilà, qui sont d'autres textes de Guibert.
Qui sont des pensées sur la photographie.
Très bien, à tout de suite.
Crédit, c'est un copain qui est pas chien. Le jour où je m'en irai à Tahiti, Tahiti, je saluerai bientôt tous les oiseaux et les goélands de majesté viendront piquer le pain dans mes mains étoilées, et de loin ils me feront des signes d'amitié comme des baisers. Si des fois j'arrivais à Tahiti, Tahiti, ça serait comme dans la rue de Rivoli, Rivoli. Je mettrais mes yeux d'enfant et mon ciné tout exprès, et pour tuer le temps, dessous de jean, dans mon spleen. Si des fois j'arrivais à Tahiti, Tahiti, je saluerai bientôt Monsieur Gerbeau, sa goélette en majesté viendrait traîner sa traîne dans le ciel mouillé, et partout il flotterait des signes d'amitié comme des regrets. Moi qui n'irai jamais à Tahiti, Tahiti, car il faut bien des sous pour faire Paris, Tahiti. Je mettrai la tour Eiffel dans mon chapeau et d'en haut je confondrai les ciels de Tahiti. Moi qui n'irai jamais à Tahiti, Tahiti, je reconnais très bien Monsieur Gauguin et ses pinceaux de majesté qui venaient piquer un peu de mauve sur les quais de la Seine, quand la Seine ressemble à Tahiti comme une amie. On est partout quand on est à Paris, à Paris. Thank you.
Bonjour, rebonjour à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Théâtre
de la Gamelle,
présentée par la compagnie
Hérodium. Ah non, les montures du temps. Mais et aujourd'hui, avec nous, les membres compagnie, de la compagnie Hérodium.
Voilà.
Autour de Tex, d'Hervé Guibert.
Merci Anaïs. Et donc, on vous laisse la parole pour lire des extraits de l'image fantôme d'Hervé Guibert.
Proposition de séquence à Bernard Faucon. Mon père s'appelle Serge. Il m'a appelé Hervé Serge. Mon père me montrait sur mon corps les marques qui certifiaient que j'étais son fils. Cet os absent dans l'articulation du pouce, cet ongle de pied incarné peut-être, toutes ces preuves congénitales, ces petites déformations. Mon père et ma mère s'étaient réparti mon corps selon des limites bien définies. À ma mère, mon corps le matin, lorsqu'elle me levait et m'habillait, me forçait à chier et m'essuyait le derrière. À mon père, mon corps le soir, lorsqu'il me déshabillait, debout sur mon lit, et qu'il me mettait mon pyjama. Il allait dans la salle de bain chercher le paquet de coton et une petite bouteille d'eau de Cologne. Il étendait une serviette éponge sur ses genoux et reposait mes pieds sur la serviette. Il se mettait à passer lentement, entre chacun de mes doigts de pied, le coton imbibé d'alcool. Il me couchait et me bordait en fixant de grosses pinces métalliques, des draps au matelas, afin que je ne puisse pas tomber du lit pendant mon sommeil. Dans l'obscurité, il disait avec moi « Un autre père » et « Je vous salue Marie ». Puis il m'embrassait et je m'endormais. Mon père mangeait mes crottes de nez. Mon père me cachait sous son grand imperméable pour me faire entrer aux films interdits aux moins de 18 ans que je voulais voir. Viridiana, Rosemary's Baby, Théorème. Élevé par des femmes, mon père n'a jamais eu de père et son fantasme, sans doute, était d'avoir un fils, de se mettre à ma place. Mon fantasme serait alors de jouer le rôle de mon père, de rejouer avec un enfant ce rituel du coucher et de la toilette des pieds qu'il a accompli avec moi jusqu'à l'âge de 13 ans. Mon père était déjà chauve et je voulais faire repousser ses cheveux en frottant son crâne avec des pétales de rose, des peaux de banane et l'alcool dans lequel je faisais macérer des marrons. Je deviens chauve à mon tour et je n'ai pas de fils. Voilà. Voilà, ça c'était un extrait, enfin on va lire que des extraits de l'image fantôme qui est un recueil donc sur la photographie. Mais ça, ça n'avait rien à voir avec la photographie. On continue ?
Deuxième extrait.
Donc on va lire un extrait de photo animée.
À partir de la naissance de ma sœur en 1951, suivie de ma naissance en 1955, mon père a simultanément pris des photos avec un appareil Zeiss Icon qu'il avait acheté d'occasion en Angleterre à l'âge de 16 ans et tourné des films avec une caméra 16 mm Paillard que lui avait donnée sa tante à la mort de son mari. J'ai cherché à savoir comment se constituait une mémoire familiale, différemment avec la photo et avec le film. Et durant un week-end de Pâques, je suis retourné dans la maison de mes parents pour simultanément compulser les photos et visionner les films. J'avais des souvenirs éblouis de ces séances de cinéma dans mon enfance, le dimanche après-midi. L'installation du projecteur, les rideaux tirés et le bruit des bobines qui tournent. Cette odeur si particulière et un peu chaude, des pellicules frottées ou de l'huile des mécaniques. Le souffle du moteur, le bruit de la ventilation. La séance s'achevait par la projection d'un film de Charlot qui était invariablement « Charlot sert la soupe » et que j'ai revu en m'apercevant qu'il me faisait rire sans que j'aie compris ce qu'il fallait comprendre pour rire. Par contre, je me souvenais pratiquement de chaque geste, de chaque passage. Le travelling sur le sanatorium de l'oncle Raoul, le mariage de mes parents, la naissance de ma sœur, le départ de l'oncle Édouard pour Madagascar dans un avion à hélice, la course de chevaux à Chantilly, le mariage du cousin Jean-Claude. Le film familial consistait en une dizaine de bobines de films collées bout à bout, rangées dans des boîtes de fer blanc numérotées année par année en haut d'un placard. Et le film familial se déroulait selon un scénario immuable. Les mariages, les naissances, la maternité, on pèse, on lange, on talque, on donne le sein, les fêtes, Noël, la galette des rois, les anniversaires, les sorties un peu exceptionnelles, la corrida, la promenade en mer... Mon père commençait par filmer une date, en reprenant celle d'un calendrier ou en détachant deux chiffres d'une plaque d'automobile. Puis il filmait les bornes kilométriques, les pancartes signalisatrices au bord de la route. Et d'année en année, les lieux de vacances défilaient. Taron, La Favière, Luc-sur-Mer, Aiguebelle, Croix-de-Ville, La Haume-Varaville. Cette projection a donné lieu à une révision nostalgique. Cela devait faire 10 ans qu'on n'avait pas fait marcher le projecteur, mais c'était peut-être aussi la dernière fois qu'on le faisait marcher. La nervosité de ma mère redoublait. peut-être la peur de se revoir jeune, et s'exprimait par des inquiétudes détournées et idiotes. C'est le transfo qui sent, mais arrête, on va mettre le feu. Les films sont muets et il m'intéressait de voir de quels sous-titres on allait les agrémenter, quel discours familial pouvait se greffer sur ces images. En relevant des phrases de ci de là qui échappaient au babillage descriptif, j'ai pu me rendre compte à quel point ce discours était angoissé et porteur de mort. J'en retranscris ici quelques-unes dans l'ordre.
Il s'est suicidé, Robert.
Il a eu les jambes coupées, Edouard.
Il y a beaucoup de gens morts là-dedans.
André, regarde ce qu'il a changé.
René est devenue toute rondouillarde.
Il faisait froid, j'étais glacée. Regarde comme j'étais coiffée.
La tonnelle a été complètement retirée parce qu'elle pourrissait.
Tu vois, ça serait mieux en couleur. Il y a des fleurs, il y aurait l'herbe verte.
C'est là qu'elle a eu son accident, qu'elle est tombée sur le front.
Ce que j'étais mince, pas de ventre. Oh, dis donc.
Je me demande si les films ne doivent pas vieillir. C'était beaucoup plus clair que ça.
Il est tombé à l'eau et il est mort. On l'a retrouvé à l'écluse.
Forcément, la tomate, si c'était en couleur, on verrait que c'est une tomate.
C'est certainement la Vierge à l'orteil qu'on regarde.
Là, Suzanne avait une douleur exquise.
C'est peut-être la dernière fois qu'on voit ces films.
La poupée est restée toute nue, toute sa vie.
Nous nous sommes baignés, l'eau était chaude.
Et on dirait que c'était hier tout ça, alors que c'était il y a 20, 30 ans.
retour à l'image amoureuse.
Pourquoi m'as-tu tant photographié ?
Je n'ai pas l'impression de t'avoir beaucoup photographié. Je t'ai certainement moins photographié que j'en ai eu envie. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi je te photographie. Peut-être parce que je ne peux pas te caresser. Mais je ne t'ai même pas demandé si je pouvais te caresser.
Cette idée me fait horreur.
Tu vois, il est plus facile de te demander si l'on peut te photographier que de te demander si l'on peut te caresser. Je te photographie comme si je faisais une provision de toi, en prévision de ton absence. Ces photographies sont à mon désir comme des gages ou des cautions. Je ne sais même pas si je les tirerai un jour, mais si un jour, par le fait de l'amour, ton absence me devenait intolérable, eh bien je sais que je pourrais avoir recours à ce petit rouleau et développer ton image pour te caresser alors, mais sans te faire horreur, ou pour t'envoûter. On raconte que pour rendre quelqu'un rétif amoureux de soi, il suffit de laisser pourrir à son insu sous son lit une pomme verte dans laquelle on a planté des clous de girofle. La photo est une semblable manipulation, comme un sort que je te jetterai. En prenant ta photo, je te lis à moi si je veux. Je te fais entrer dans ma vie, je t'assimile un peu et tu n'y peux rien.
L'image fantôme. La photographie est aussi une pratique très amoureuse. Un jour, mes parents habitaient encore à La Rochelle, dans ce grand appartement clair, bordé entièrement par un balcon qui surplombait les arbres du parc, et un peu plus loin la mer. Je devais alors avoir 18 ans et j'étais revenu là pour un week-end, un jour de soleil, mais d'un soleil frais, aéré et doux. J'imagine maintenant mai ou juin. Je décidai de prendre ma mère en photo. Je l'avais déjà photographiée en vacances avec mon père sans réfléchir, des photos forcément banales qui ne disaient rien de la relation que nous pouvions avoir, de l'attachement que je pouvais lui porter. Des photos qui se contentaient de livrer obtusément un faciès, une physionomie. Ma mère refusait d'ailleurs le plus souvent de se laisser prendre en photo, prétendant qu'elle n'était pas photogénique, que cette situation immédiatement la crispait. Si j'avais 18 ans, ce devait être en 1973, et ma mère, qui est née en 1928, devait donc avoir 45 ans, un âge où elle était encore très belle, mais un âge désespéré, où je la sentais à l'extrême limite du vieillissement, de la tristesse. Il faut dire que je me refusais jusque-là à la photographier car je n'aimais pas sa coiffure, qui était artificiellement bouclée et laquée de ces affreuses mises en plis que ma mère se faisait faire, en alternance avec des permanentes, et qui embarrassaient son visage, l'encadraient malencontreusement, la cachaient, la faussaient. Ma mère était de ces femmes qui se vantent d'une ressemblance avec une actrice, Michèle Morgan en l'occurrence, et qui vont chez leur coiffeur avec une photo de cette actrice choisie sur un magazine, afin que le coiffeur, en prenant modèle sur la photo, reproduise sur elle la coiffure de l'actrice. Ma mère était donc à peu près coiffée comme Michèle Morgan, qu'évidemment je me mis à haïr. Mon père interdisait à ma mère le maquillage et aussi de teindre ses cheveux. Et quand il la photographiait, il lui ordonnait de sourire. Ou alors il la prenait malgré elle, en faisant semblant de régler son appareil pour qu'elle ne puisse pas contrôler son image. La première chose que je fis fut d'évacuer mon père du théâtre où la photo allait se produire, de le chasser, pour que son regard à elle ne passe plus par le sien. Et par cette demande d'apparence, donc en fait de la libérer momentanément de toute cette pression accumulée pendant plus de 20 ans, et qu'il n'y ait plus que notre connivence à nous, une connivence nouvelle, débarrassée du mari et du père. Juste une mère et son fils. N'était-ce pas en réalité le décès de mon père que je voulais mettre en scène ? La seconde chose fut de délivrer son visage de ce fatras de coiffure. Je lui passais moi-même la tête sous le robinet, accroupi dans la salle de bain afin que ses cheveux se défrisent, et je plaçais sur sa tête une serviette afin que ses épaules ne soient pas mouillées. Elle était en combinaison blanche. J'avais essayé plusieurs robes anciennes dont le souvenir remontait à l'enfance, par exemple cette robe à volant bleu à pois blanc qui est associée à un souvenir de dimanche, de fête, d'été, de plaisir. Mais soit ma mère ne pouvait plus rentrer dans la robe, soit la robe me paraissait de trop, prendre trop d'importance, être trop voyante et finir par cacher encore ma mère, alors que toute tentative, rétrospectivement, consistait à la dénuder. Je peignais longtemps ses cheveux blonds mi-longs pour qu'ils soient absolument raides de chaque côté de son visage, sans volume, sans flou, en laissant apparaître la pureté des lignes, son nez long et droit, ses maxillaires bien effilés, ses pommettes hautes et, pourquoi pas, même si la photo devait être en noir et blanc, ses yeux bleus. Je la poudrais un peu, d'une poudre pâle, presque blanche. Puis je l'emmenais dans le salon qui était baigné de lumière, de cette lumière douce et chaude, envahissante, reposante de ce début d'été, et j'arrangeais un des fauteuils blancs. Ma mère était assise dans ce fauteuil avec sa combinaison et sa serviette sur les épaules et elle attendait, droite, mais sans aucune raideur, que j'ai fini la préparation. Je remarquais que ses traits s'étaient déjà détendus, comme ses petites rides qui menaçaient de pincer sa bouche avaient tout à fait disparu. J'arrêtais momentanément le temps et le vieillissement. Je retournais en arrière dans mon amour pour ma mère. Elle était là, assise, majestueuse, comme une reine avant une exécution capitale. Je me demande maintenant si ce n'est pas sa propre exécution qu'elle attendait, car une fois la photo prise, l'image fixée, le processus du vieillissement pouvait bien reprendre, et cette fois à une vitesse vertigineuse, à cet âge entre 45 et 50 ans où il surprend si brutalement les femmes. Et je savais qu'une fois le ressort détendu, elle laisserait faire avec un détachement, une sérénité, une résignation absolue, et qu'elle continuerait à vivre avec cette image dégradée, sans tenter de la récupérer au bord d'un miroir avec des crèmes et des masques de beauté. Je la pris en photo. Elle était à ce moment-là au summum de sa beauté, le visage totalement détendue et lisse. Elle ne parlait pas, je tournais autour d'elle, elle avait sur les lèvres un sourire imperceptible, indéfinissable, de paix, de bonheur, comme si la lumière la baignait, comme si ce tourbillon lent autour d'elle, à distance, était la plus douce des caresses. Je pense qu'à ce moment, elle jouissait de cette image d'elle-même que moi, son fils, je lui permettais d'obtenir, et que je capturais à l'insu de mon père. En fait, c'est ça, l'image d'une femme qui jouit, qu'elle ne pouvait jamais avoir, censurée par son mari, une image interdite, et le plaisir d'elle à moi était d'autant plus fort que l'interdit volait en éclats. La séance était finie, mon père revint. Ma mère remit une robe, refit aussitôt sa coiffure en mettant des rouleaux à ses cheveux et en passant sous le casque séchoir. Elle redevint la femme de son mari, la femme de 45 ans. Alors que la photo, momentanément, comme par magie, avait suspendu l'âge, n'en avait fait qu'une idée sociale et absurde. Ma mère, à ce moment-là, avait été belle, plus belle qu'elle ne l'avait jamais été à aucun moment de sa jeunesse. C'est ce que je voulais croire. Je ne la reconnus plus, je voulus l'oublier, ne plus la voir, me fixer à jamais sur cette image qu'on allait extraire du bain révélateur. Mon père venait de s'acheter cet appareil, un relais 35, et je m'en servais pour la première fois. Il s'était aussi acheté un matériel de développement qu'il avait installé dans la salle de bain. Nous décidâmes de tirer aussitôt le film et le temps qu'il plongeait dans le bain correspondait à celui où ma mère enlevait la poudre de son visage, faisait sécher ses cheveux, réintégrait son image première. Cette image première était totalement, définitivement reconstituée lorsque nous voulûmes faire sortir l'image occasionnelle, l'image subversive, la photo. Mais elle n'existait pas. Nous vîmes en transparence, contre la lumière bleutée de la salle de bain, le film entier non impressionné, blanc de part en part. Comme c'était mon père qui avait procédé au développement et que cette image qu'il devait faire sortir malgré lui était comme la dénégation de l'image qu'il avait mis 20 ans à forger, je pus croire un instant à une conjuration, à un détournement, à une erreur de manipulation, fût-elle inconsciente. Mais il fallait se rendre à l'évidence, je n'avais pas bien enclenché le film dans l'appareil. Il s'était décroché de ses petites griffes noires qui le retenaient, qui le faisaient avancer, et j'avais photographié à vide, à blanc, l'instant essentiel, perdu, sacrifié. Pour ma mère comme pour moi, ce fut un instant d'accablement, de douleur, une sensation d'impuissance, de fatalité, de perte irrémédiable. Ce n'était pas un incendie qui avait brûlé toutes nos affaires personnelles, nos lettres intimes, nos photographies d'enfance. C'était presque cet incendie-là. Il ne fut même pas question de refaire la séance, elle était impossible. Ce moment à blanc, cette mort à blanc, puisqu'on peut tirer à blanc, resta entre ma mère et moi avec la puissance sourde d'un inceste. Il avait imposé entre nous le silence, nous n'en parlâmes jamais. Je ne la refotographiais plus. Et elle vieillit, comme je l'avais pressenti, en un an de 10 ans. Elle était restée une femme de 40 ans, elle devint une femme de 50 ans. Chaque fois que je la revoyais, je ne pouvais presque plus la regarder. Ces plis qui pinçaient ses lèvres, qui durcissaient sa bouche, cette roseur imperceptible, ce duvet léger qui recouvrait ses joues étaient des motifs de répulsion. J'avais du mal à l'embrasser. Il me semblait que j'attendais sa défiguration. Vieille seulement, je pourrais la regarder de nouveau, l'aimer de nouveau. Donc ce texte n'aura pas d'illustration, qu'une amorce de pellicule vierge. Et le texte n'aurait pas été si l'image avait été prise. L'image serait là, devant moi, probablement encadrée, parfaite et fausse, irréelle, plus encore qu'une photo de jeunesse. La preuve, le délit d'une pratique presque diabolique. Plus qu'un tour de passe-passe ou de prestidigitation, une machine à arrêter le temps. Car ce texte est le désespoir de l'image, et pire qu'une image floue ou voilée, une image fantôme.
Souvenir, Berlin Est. N m'a donné sa photo. Et bien sûr, je ne l'y reconnais pas. Je n'y vois qu'un garçon plus joli et plus à l'aise. Mais je ne retrouve rien de ce qui m'a charmé chez lui. Son sourire très doux, la grimace timide de son rire. Son adresse est écrite au dos de la photo. J'ai beau scruter ce visage, je n'arrive pas à le tirer vers le visage que j'ai connu, à le rétablir. Et je sais bien que ce visage, le vrai, va disparaître tout à fait de ma mémoire, chassé par la preuve tangible de l'image. Mais bientôt l'image ne me dira rien, et je n'aurai plus qu'à la jeter, ou la garder comme le souvenir mièvre d'une affection fallacieuse.
L'image érotique. Ma première image érotique a été dans la vitrine poussiéreuse du libraire de l'avenue Reille. Parmi les camemberts à musique, les agates et les araignées en plastique, une petite bonne femme en maillot de bain qui se mettait à poil si l'on tirait la languette. C'était un dessin en couleur, et il suffisait de faire ce geste, comme tirer la languette de l'ardoise magique, pour voir ses nichons. Je rêvais de tirer cette languette. Seulement, je ne pouvais jamais le faire. J'étais toujours accompagnée de mes parents, et je ne disposais pas d'argent. J'avais aussi peur que la femme à la tirette me réserve des surprises, puisqu'elle se trouvait dans un lot de farces à trappe. Peut-être trouverais-je un diablotin rouge à la place de son ventre? Peut-être se métamorphoserait-elle au dernier moment en gendarme ou en chèvre? Une autre fois, à peu près à la même période, je dois avoir entre 5 et 10 ans, je profite de ce que ma mère bavarde avec le libraire pour ouvrir, au-dessus d'une pile, un des tout premiers numéros du magazine Lui. je tombe sur la photo couleur en double page de Claudia Cardinal, que je reconnais pour l'avoir vue, nue, dans un des magazines de ma mère. Couchée à plat ventre sur une peau de bête. Ce qui m'excite surtout dans cette image, qui est finalement assez chaste et qui reprend la pose du derrière rose et poudré du bébé dans le studio du photographe, c'est ce qui n'est pas montré. C'est la poitrine. Et surtout, c'est d'imaginer ce contact de la poitrine dans la fourrure, de ces deux globes très doux qui s'écrasent dans une matière encore plus diaboliquement douce. Si c'est une fourrure semblable à celle de ma mère. Je suis saisie par cette image. Sitôt entreaperçue, de stupeur et par peur d'être surprise, je referme le magazine. Elle m'obsède. Je n'ai plus qu'une seule pensée, y retourner. Mais la fois suivante, lorsque ma mère me laisse dans son dos me rediriger vers la pile, je trouve un autre numéro du magazine, lui. Ma première adolescence est sans jouissance. J'aimerais bien jouir, mais je ne sais pas comment faire. On ne me l'a pas dit. Je suis jaloux des récits de mes petits copains qui se vantent pendant le cours d'anglais d'avoir dû écoper plusieurs gants de toilette. J'ai peur des taches. Ma mère est très suspicieuse avec mon linge. Et puis mon père m'a dit qu'il était mauvais de se masturber, que cela rendait très faible, et peut-être imbécile si on en abusait. D'ailleurs, je confonds bandé et branlé. Je crois que ces deux mots recouvrent la même activité. Je suis allée acheter chez un distributeur de films deux jeux de photos du film Satyricon, qui vient de sortir. Parmi elles, se trouve une photo d'Hiram Keller, entièrement nue et impubère. Le sexe seulement enfermé dans une coque d'or. Le sein traversé d'une fine lanière de cuivre pour retenir un carquois sur son dos. Il tient par la main une femme en pagne, les cheveux surmontés d'une tiare. Cette image me fait irrésistiblement bander. Et souvent, quand je rentre de l'école, haletant, je la sors lentement de sa pochette, puis je sors mon sexe de sa braguette et je le pose juste, érigé, sur la photo. Il recouvre tout le corps rétréci de la photo qu'il érige et qu'il domine. Il est à peine plus grand qu'un de mes soldats de plomb. Et je reste ainsi longtemps, immobile, à bander sans rien faire au-dessus de la photo, comme hypnotisé, jusqu'à la lassitude, jusqu'à la fin, ou jusqu'au premier bruit de pas.
Les secrets. À t'avoir raconté cette histoire, je m'en sens complètement vidé. Cette histoire est mon secret, tu comprends?
Et après?
À toi, je ne veux pas dire, je t'en prie, ne la répète pas.
Oui, mais maintenant ton secret est devenu aussi mon secret. Il fait partie de moi, et je me comporterai avec lui comme avec tous mes secrets. J'en disposerai au moment venu, et il deviendra le secret d'un autre.
Tu as raison. Il faut que les secrets circulent.
Thank you.
tous, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Théâtre de la Gamelle proposée par la compagnie Des Montures du Temps. Nous remercions beaucoup la compagnie Hérodium qui nous a lu des textes et présenté un projet sur Hervé Guibert. On rappelle une dernière fois votre projet donc, qui s'appelle « Mais tous les ciels sont beaux » qui va se jouer donc
au Théâtre du Verseau à Saint-Étienne les 9, 10 et 11 mai.
Et à la rentrée à Lyon.
Voilà, au Théâtre des Couchards Célestes.
En novembre.
En novembre, suspense.
Et vous avez pas de, y a pas de bulletin météo sur Radio Canu?
Ah bah, pas dans notre émission.
Hyper déçu, je pensais qu'on allait dire qu'il faisait 18 à Ajaccio ou,
vas-y,
ou 13.
Si tu veux,
bah, voilà, bah, il fait 18 à Ajaccio.
Très bien.
Voilà.
Combor nous a rejoint dans le studio. Bonjour Combor.
Salut.
Pour sa chronique paysagère.
Et oui, une chronique paysagère aujourd'hui avec une mise en abîme organique parce que les auditeurs ont dû s'apercevoir que l'écriture d'Hervé Guibert est très organique, que ce soit de l'avant ou après la maladie. Et donc ça va être un petit extrait des histoires de Feucamp. Et ça s'appelle aussi le merveilleux trajet du champ des possibles. Et Feucamp, qui cherchait du boulot et comme beaucoup de gens n'en trouvaient pas, est devenu cobaye. On lui a fait subir une opération, c'est-à-dire qu'on lui a soulagé toutes les complications intestinales. Maintenant, c'est tout droit. Voilà. Et puis tout à coup, il vit avec ça et puis il a une certaine nostalgie. Au grand jour, Feucamp s'aperçut, après s'y être longuement penché, qu'il aimait sa digestion d'antan. C'est l'assaut où sont ces dames, la paix mensongère. Le paix qu'il avait perdu dans sa conquête de l'avenir investit sa mémoire, et par cette incursion se féminisa. Dès lors, dans la femme, que put-il saisir de cet ailleurs qui n'est pas dans la mémoire et ne siège pour ainsi dire que dans la femme? Par les temps qui courent, ce propos se convexifie dans les cornets des sourds, car qui a dit femme d'ailleurs? La démocratie est l'antidote de cette gageure, c'est le règne du même. Tout glissait en lui comme à la surface, plus rien ne s'arrêtait, et qui a prétendu que son souhait était de faire étape? Il y trouvait son compte à ne s'engager sur aucune piste définitive. C'était l'égalité établie en droit entre tous les destins. Le monde était une branloire pérenne, oscillant de l'ennui à l'ennui. Où était l'ennui? Il fallait certainement chercher vers les zones d'évacuation du monde établi par l'État. Les paix abandonnées à ceux qui encore s'obstinaient à mendier du gland, Feucamp s'amouracha de la belle paix, P-A-I-X, qui, parée des atours plexiglas, lui souriait dans le miroir unidimensionnel, qui, sans qu'il s'en rendisse compte, avait mangé son armoire à mesure que lui-même se simplifiait et laissait de côté ses tortures digestives. Et quand ce jour il se planta devant son miroir concave pour contempler la nouvelle posture de son ampoule rectale, le muscle dans sa poitrine en forme de gros prépuce se mit à battre dans son anus. La paix, admirable, glissait une cuisse puis l'autre hors du sable agglutiné qui faisait reflet. Le miroir était cette fantastique étendue d'eau d'où émergeait la nymphe, que lui, si différent des autres, n'avait pas soupçonné, surtout pas, car il ne rêvait pas à ce moment, il était planté là dans l'intention de contempler son cul, pour être franc. Pour lui, c'était un nouveau cycle, il y en a toujours un pour prendre le relais. Effectivement, le miroir œuvrait unilatéralement, ça y était, Feucamp lui ferait l'amour, comme à lui-même, devant le miroir. Il n'avait plus à faire d'efforts pour comprendre la femme. C'était l'œuvre du champ des possibles, d'avoir tout égalisé, même les constitutions démocratiques, œuvrant unilatéralement pour le nivelage par le milieu des miroirs concaves qui épatent les silhouettes et constituent des corps considérables pour que le voyeur s'y engloutisse. Comment, mensonge, retour? De tous ces affronts, de toutes ces nostalgies, Feucamp ne pouvait se venger. Il ne le voulait pas, et ses insuffisances conjuguées furent finalement son souhait. Son souhait le plus cher, lui ayant coûté une longueur d'intestin et des bouts d'œsophage. Il avait hérité en revanche d'une ampoule rectale, comme on n'en voit pas souvent, et il ne s'en plaignait pas. Elle l'aidait à s'extraire de lui-même et à unifier ses plaisirs, car à présent que rien ne stagnait en lui, à part la névrose, il n'avait plus rien d'une femme, il ne porterait plus rien, il ne bercerait plus ses déjections, ce fardeau patiemment élaboré et aimé. Alors la turgescence de l'ampoule rectale le consolait. Voilà. Pour cet extrait, ce n'est qu'un extrait.
Merci Combor. Je crois que tu avais une annonce à faire pour finir.
Oui, si vous voulez vous soulager, non pas l'ampoule rectale, mais d'avoir éventuellement déposé une enveloppe très lourde dans une urne très maigre, vous pouvez nous rejoindre en fait pour fêter un roman que je viens d'éditer, mais ce sera sous forme de fête et de rencontre. On peut faire de la musique et tout. C'est dimanche donc de midi à 17h à une galerie bien complice de moi et mes amis qui s'appelle La Rage. C'est à la Guillotière, 33 rue Pasteur, et vous serez bienvenus. Vous pouvez apporter un petit panier de victuailles à boire et à manger, et on discutera autour ou pas autour de ce bouquin qui s'appelle Chute des corps, qui vient de sortir aux éditions à plus d'un titre. Voilà.
Merci Combor. Je vais en profiter aussi pour faire une minute d'autopromotion pour ma compagnie, donc Grimm et Concocte, que vous avez souvent entendu ici pour des cartes blanches, des lectures. Pour parfaire votre programme du week-end, nous proposons avec le théâtre de Midland deux soirées politiques ce soir et demain soir à 19h30, qui sont en fait des grandes fêtes théâtrales et politiques au cours desquelles nous reconstituons le dernier grand meeting UMP de Nicolas Sarkozy de 2007 à Bercy. Alors au programme, Johnny Hallyday, Henri Salvador, Carlos, des sportifs, des animateurs, des politiques, une grande fête, tout le monde là pour soutenir le candidat, le héros de la soirée, Nicolas Sarkozy. Le spectacle, les soirées s'appellent Le Meeting dont vous êtes le héros. Donc c'est un défi, c'est pas vraiment un spectacle, c'est un défi qu'on se lance, c'est des soirées presque improvisées. Voilà, le but c'est d'être ensemble, de parler politique, d'ouvrir un espace et un temps où on parle politique, où on décide enfin pour qui voter, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et on vous propose aussi de participer au spectacle, c'est un spectacle très participatif. Vous pouvez vous mettre dans la peau du présidentiable et lire des bouts du discours devant la foule en délire. Donc c'est ce soir et demain soir à 19h30 au théâtre de Midland.
Tu peux rappeler l'adresse.
Alors c'est au 33 quai Arloin à Vez. Vous entrez tout au bout de l'allée, vous suivez les flèches, c'est un petit lieu vraiment convivial à découvrir que je vous conseille. L'entrée, le prix de l'entrée, c'est une bouteille ou un casse-croûte à partager. Et il y a 2€ d'adhésion au théâtre de Midland. Et pour finir, je voudrais vous parler aussi d'un événement qu'on organise le week-end prochain, vendredi 27 avril, au Goethe-Institut, qui s'appelle Expérience Mercedes. On avait fait une carte blanche autour de ce texte Mercedes de Thomas Brasch il y a pas si longtemps à l'émission. Et on présente au Goethe-Institut, donc le vendredi 27 avril à 20h, un premier working progress public. Et c'est un spectacle aussi qui est interactif. Donc vous pouvez venir vous joindre à nous, c'est un spectacle libre participation aux frais, et vous pourrez à cette occasion-là peut-être changer la face du spectacle qui sera créé en janvier 2013 en Saône-et-Loire. Voilà.
Ah, où en Saône-et-Loire ?
À Saint-Vallier, à côté de Mont-Soleil-Mines. Ah.
Est-ce que tu peux redire l'heure, le 27 avril ?
Le 27 avril au Goethe-Institut, 18 rue François Dauphin, dans le 2e arrondissement, juste à côté de la place Bellecour. À 20h, ouais. Au Goethe-Institut. Et voilà, juste pour rappeler vite fait, c'est l'histoire de deux jeunes gens, Hoy et Sacco, qui sont au chômage, dans un no man's land urbain, au bord d'une autoroute, dans une société postmoderne, et qui cherchent un sens à leur vie en s'inventant des jeux, en s'inventant d'autres vies. Voilà.
Autrement, ce soir, j'y pense aussi, il y a le vernissage de Marie-Claire Corda. Certains d'entre vous, en tout cas des auditeurs, doivent la connaître. C'est une plasticienne lyonnaise très intéressante et qui vient d'illustrer un livre de Jean-Marc Rouillant qui était à Action Directe, si vous vous souvenez, et qui vient de sortir un bouquin en fait de poèmes très intéressant sur la vie avec un bracelet électronique à Marseille. Voilà, donc ce sont ces déambulations à travers la ville de Marseille actuelle, ça vient de sortir, et Marie-Claire Corda fait les illustrations qui ressemblent un peu à des gravures du 19e siècle. Voilà.
Alors tu sais à quelle heure c'est le vernissage ?
Et c'est à partir de 18h ce soir.
Ah, super, 18h.
C'est au Cri de l'Ancre, rue du Major Martin.
Et 19h30, théâtre de Midland. Voilà. 33 quarts, loin.
Ça peut se conjuguer.
Merci. C'était donc le théâtre de la Gamelle. Merci à tous. On se retrouve vendredi prochain à 13h en direct pour une nouvelle émission de théâtre radiophonique. Merci Anaïs.
Merci tout le monde. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'est quoi la semaine prochaine ?
Ah, la semaine prochaine ? C'est une émission, en fait, une carte blanche à Elodie Arrochant qui va être crieur public sur Lyon. Voilà.
la nouvelle.
Merci.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
La musicienne, je pourrais pas te faire un bon jingle.